Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Here comes Huston! Here comes Huston, c'est Red Cashin.
Vous êtes dans la zone payante, l'épisode numéro 10 de la saison 3 de votre podcast sur le football. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean Carrier. Vous êtes à notre première étape, là, le match. On est au premier essai de ce match cette semaine. On a trois sujets à vous proposer. Le premier sujet, premier essai, c'est Stéphane qui prend le ballon. On y donne la roche. Puis Stéphane, tu vas nous parler d'Aaron Rodgers parce que là, la semaine passée, on a appris qu'il avait la COVID. On a appris qu'il n'était pas vacciné. On avait appris qu'il a fait à croire, ou en tout cas, il s'est excusé pour avoir induit les journalistes en erreur sur son statut vaccinal. Puis on a appris aussi que Jordan Love ne le remplacera pas de sitôt.
écoute, c'est beaucoup de choses à digérer en même temps. Premièrement, il y avait déjà de la bisbille dans l'air là, entre Rodgers et les Packers. Est-ce que c'est la petite couche de plus là, qui va faire que le c'est le divorce officiel à la fin de l'année? Peut-être. Ça a été géré d'une drôle de façon. On remarque, tu sais, on parle de bisbille, mais les Packers et Rodgers ont agi de connivence là-dedans. Là. C'est-à-dire que lui a dit, à la question « Est-ce que tu as été vacciné? » Il a répondu « Oui, j'ai été immunisé. » Donc, il y a cette nuance-là. Il a joué sur les mots, on s'entend. Tout ça pour faire passer une perception, là, tu sais, pour essayer de camoufler le véritable statut. Tu sais, qui parle, ses opinions sur le vaccin, ça, c'est une chose, tu sais, il y en a beaucoup qui vont être en désaccord, il y en a qui vont être d'accord avec lui. D'essayer de jouer sur les mots pour camoufler le statut, c'est carrément autre chose. Puis les Packers, le fait qu'il y a eu des protocoles brisés...
Ils ont joué dans ce film-là, là.
C'est ça, ils ont joué avec lui, exactement. Puis les protocoles qui ont été brisés, on a le droit de regarder ça puis de se dire « Ouais, mais c'est un peu débile comme protocole, là. » Il est dans une salle remplie de journalistes, tous double vaccinés, qui portent tous un masque, qui est à une distance sociale très raisonnable d'eux autres. Qu'est-ce qui peut arriver si lui n'a pas de masque? Il y en a qui peuvent se dire ça, puis c'est un point donc qui est discutable, mais il y a des protocoles en place, c'est ça la réalité. Puis l'association des joueurs de la NFL a approuvé ces protocoles-là. Maintenant, il faut que tu embarques dans le train. Tu peux pas t'élever au-dessus des autres parce que tu es Aaron Rodgers ou quoi que ce soit. Là. Tu dois suivre ça. Puis Aaron Rodgers, c'est un joueur exceptionnel. On débattra même pas là-dessus. Au fil du temps, je trouve qu'il a développé une certaine personnalité. Cette année particulièrement, peut-être que c'est à force d'aller, je sais pas si vous êtes adepte du Pat McAfee Show où il va faire... Son intervention une fois par semaine. J'hésite à parler d'entrevue personnellement parce que c'est plus un monologue où il s'en va se faire flatter dans le sens du poil, au sens où la moitié des questions commencent par Aaron, toi qui es un gars tellement intelligent, tellement bon, tellement fantastique, le MVP. C'est moi, personnellement, ça me dérange d'entendre ça parce que c'est là où il va s'exprimer le plus, qu'il va donner le plus sur sa personnalité, mais en même temps, il passe 40 minutes par semaine à se faire flatter dans le sens du poil, à se faire dire à quel point il est beau, bon pis fin. C'est
souvent des entrevues pièges, ça, par contre.
Ça développe un certain culte de la personnalité. Moi, c'est là où je décroche un peu avec Rodgers, puis je me dis que les Packers en sont peut-être rendus au même stade. De toute façon, il y avait de la friction, comme je le mentionnais au début.
Mais c'est incroyable.
Vraiment pas s'étonner. À ce stade-ci, moi, je vois pas Rodgers en 2022 avec les Packers.
C'est incroyable que deux carrières qui vont finir leur carrière au temple de la renommée, ouais. Brett Favre et Aaron Rodgers, finissent aussi mal leur relation avec l'équipe avec laquelle ils ont eu le plus de succès.
Et les Packers sont pas blancs comme neige non plus là-dedans. Ils ont pas toujours parfaitement entouré ces carrières-là.
Ouais.
Donc, il y a un peu des deux côtés. Mais Rodgers a choisi beaucoup plus d'étaler, de laver son linge sale en public cette année. Puis ça, je pense que c'est le truc qui passera pas là, du côté des Packers.
Je vais même ajouter que c'est honteux qu'il y ait juste un Super Bowl chaque dans leur temps avec les Packers.
Tout à fait.
OK, la bombe à Jean pour le deuxième essai, Johnny. Qu'est-ce qui se passe avec des équipes qu'on voyait trôner au sommet de leur division il y a à peine 2-3 semaines? Les Bills, les Bengals, les Broncos, les Panthers qui avaient connu un bon début de saison. C'est vrai que là, ça fait un petit bout que ça va mal, mais est-ce que c'est dur à expliquer comment on peut avoir une baisse de régime. Là. C'est sûr que les Bills, là, c'est l'exemple suprême.
Les Bills, mais honnêtement, tu sais, je trouvais ça lent un peu comme début cette année dans la NFL. Honnêtement, dans les deux dernières semaines, c'est un feuilleton digne de la lutte, les gars, là. La NFL, c'est spectaculaire dans les deux dernières semaines. Toutes les histoires, puis il y a des équipes qui dégringolent. Ça a été le cas des Bills. Écoute, performance tellement horrible face aux Jags. Tu te demandes qu'est-ce qui va. Mais honnêtement,
ça fait trois semaines là, qu'ils ont des.
Exact. Mais je vais quand même, honnêtement, pas appuyer sur le bouton panique. Ils ont trop de talent dans l'alignement pour pas que ça fasse une différence à un certain moment donné. Statistiquement, tu regardes, puis il n'y a pas nécessairement de problème avec ce club-là. Là. Écoute, ils sont top 10 autant défensivement qu'offensivement. Top 10, ils sont premiers dans la NFL encore pour le ratio de revirement. Normalement, le seul endroit où ça va moins bien, c'est avec la victoire-défaite, parce qu'ils devraient avoir une meilleure fiche que ça. Je pense que des fois, il en demande peut-être un petit peu trop à Josh Allen. J'aimerais ça, moi, qu'il éparpille un petit peu là, l'attaque terrestre, entre autres. Faut qu'elle en fasse un peu plus. En dehors de ça, je pense que les Bills vont être honnêtement très, très... Ça va bien aller. Là. C'est juste une mauvaise passe. Ils vont se replacer. Les Bengals, maintenant. Ça, moi, je commence à m'inquiéter parce que je trouvais que ça allait vraiment bien.
T'avais tes pommes oranges, toi, là, il y a deux semaines.
On les a jinxés dans notre show à parler d'eux autres en bien il y a deux semaines. On a fait un peu leur apologie.
Ouais,
c'est depuis ce temps-là que ça va mal.
Oui, exact. C'est sûr que la défaite face aux Jets fait tellement mal, mais c'est pas un problème d'attaque. On sait que les Bengals sont capables de mettre des points. C'est vraiment dans les deux derniers matchs que la défensive est méconnaissable. Elle jouait vraiment bien depuis le début de l'année. Elle jouait de façon disciplinée. Tu voyais qu'il y avait une cohésion. Tu sais, l'unité marchait, fonctionnait bien comme unité. Je pense pas que la défensive des Bengals a des super vedettes, mais elle marchait bien parce que chacun faisait son boulot. Dans les deux dernières semaines, c'est horrible. Puis ils ont été vraiment mauvais pour arrêter l'attaque au sol. Autant des Jets que des Browns. Donc là, est-ce que c'est ça la vraie défensive des Bengals? On va le savoir, je pense. Que le reste de la saison, c'est la défensive qui va dicter qu'est-ce qui va se passer pour les Bengals. Si la défensive se redresse, reprend un peu de poil de la bête, je pense que les Bengals vont être corrects. Si la défensive est chancelante, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour la suite des choses.
OK, est-ce que tu as une autre équipe que tu vois qui ont une espèce de baisse de régime là inattendue en milieu
ouais,
de saison?
Ouais, les Panthers, les Panthers, ça va vraiment vraiment pas bien là, tu sais. Écoute, c'était une belle surprise au début, mais là honnêtement la surprise est finie, les Pats les Pats s'en sont occupés la semaine passée. Ils viennent de perdre Sam Darnold pour les 4 prochaines semaines minimum. Fait que là, tu sais, ça va être PJ Walker qui va être là. Il y a pas trop de hype là présentement avec les Panthers. Puis c'est pas terminé parce que le calendrier est quand même relativement avantageux. C'est un calendrier qui est pas si dur que ça. Mais à un moment donné, il faut que tu gagnes des games. Puis est-ce que c'est PJ Walker qui va te faire gagner? J'ai des doutes. Là. Dans les 4 prochains matchs, leur saison va jouer là. Tu as Arizona, Washington, Miami, Atlanta. Faut que tu sois 500 dans ces matchs-là. Si t'es en bas de 500, c'est terminé la saison. Et je vois pas comment ils pourraient se redresser.
La seule chose qui joue du côté des Panthers, c'est que tu regardes un peu la façon dont les choses se déroulent dans la NFC. Le septième spot, le septième et dernier spot pour les séries, ça va être une équipe qui risque d'être plus faible. Là, que ce soit Atlanta, Minnesota, Caroline, San Francisco, peut-être. On joue dans ces eaux-là. Là, une équipe qui visiblement va jouer...
9-8, 8-9.
Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Il y a une petite fenêtre pour les Panthers encore là, qui est pas complètement éteinte, mais va falloir commencer à aligner quelques victoires parce que c'est pas chic depuis
que McCaffrey se remette à fonctionner. Ainsi va les Panthers, ainsi va McCaffrey.
Exact. Puis la dernière équipe, c'est les Broncos. Grosse victoire à Dallas. Moi, ce que j'ai vu dans la victoire à Dallas, c'est qu'ils ont été agressifs en attaque. Ils ont pris des chances. Bridgewater a lancé la balle profondément, puis ça a payé. S'ils gardent cette mentalité-là, ils vont peut-être avoir une chance, mais moi, je pense quand même que c'est une division qui va aboutir en bout de ligne avec les Chiefs parce qu'ils ont le meilleur carrière.
Troisième essai, les boys. On est un peu à l'étape des bilans, là. Est-ce que vous avez déjà une équipe qui vous a surprise depuis le début de l'année puis une autre équipe qui vous a déçu?
Hey, t'sais, quand tu dis bilan, on est déjà à la mi-saison. C'est incroyable, pareil, comment le temps file.
Il fait noir à 4 heures.
Ouais, c'est ça. Oh oui, c'est en ce temps-là le vrai football quand il fait noir à 4 heures.
Exact.
Mais surprise, tu sais, la réaction évidente, c'est de dire les Cardinals. Fait que j'ai le goût d'y aller avec autre chose. Pour moi, personnellement, là, je voyais les Saints beaucoup plus faibles qu'ils sont en ce moment. Il y avait le changement de corps arrière. Tu sais, je croyais pas tant que ça à la base en Jameis Winston, mais là, en plus, il se blesse, il tombe au combat. Les Saints gagnent un match quand même. Puis la défensive, oui, je la voyais comme une unité forte, mais peut-être pas à ce point-là. Donc, pour moi, les Saints, c'est une vraie belle surprise cette année. On ne sait pas là ce qui va arriver. Je ne sais pas s'ils vont se tourner vers Taysom Hill ou s'ils vont continuer avec Trevor Siemian. Ça risque là d'amener une certaine controverse tôt ou tard durant leur saison. Mais avec la défensive qu'ils ont, ils peuvent vraiment faire un bout de chemin. Puis, ils sont bien positionnés, disons, en première moitié de saison, à tout le moins. Là. Ça, pour moi, c'est quand même surprenant.
Vas-y avec ta déception.
OK. Ben la déception, ça pourrait être les Chiefs. Ils pourraient en avoir quelques-unes. Mais de mon côté, je voyais les 49ers beaucoup plus gros qui sont là. Je sais que l'an passé, ils ont pas fait les séries, donc il y en a qui vont dire pourquoi les Niners? Ben parce qu'il y avait une pelletée ou même deux de blessés, là, tu sais. Puis c'était pas des petites blessures comme on voit dans bien des équipes, là, qui ont, des fois, il y a des équipes qui ont 7, 8, 10 gosses à la liste des blessés, mais c'est pas des joueurs de renom. Tu sais, l'an passé, tu regardais du côté des Niners, à peu près tous les joueurs très productifs de l'équipe étaient à l'écart. Donc, c'était quand même logique de conclure que cette année, avec tout ce beau monde-là en poste, le retour de Nick Bosa, le retour de Jimmy G, le retour de Kittle, etc., 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 que les choses allaient mieux se passer. Puis c'est finalement pas le cas. Il y a pas vraiment de production constante du côté de l'offensive. La défensive, on est loin, mais très loin du calibre de 2019, l'année du Super Bowl. Tu sais, je dis 2019, on dirait que je parle de 10 ans.
Ça fait pas 10 ans, on dirait que c'est vrai, exact.
Tu sais, ça fait c'est hier, ça, 2019. Là. Donc, pour moi, ça explique là, un peu ma déception. Il y en aurait plusieurs autres des déceptions.
Oh oui.
Vas-y donc, Jean.
Écoute, moi, ma surprise, c'est les Cards d'Arizona. Je savais qu'il allait avoir une bonne équipe, je savais qu'il allait compétitionner dans une division qui est quand même très, très redoutable, mais je pensais pas qu'il allait dominer comme c'est le cas présentement. Écoute, présentement, statistiquement, ils sont la cinquième meilleure attaque, ils ont été première attaque pendant un bon bout aussi là, dans le calendrier, quatrième meilleure défensive, c'est l'équilibre maintenant qu'ils sont allés chercher, c'est ça qu'il n'y avait pas avant. Puis ça donne exactement ce qu'on voit. Ils sont troisième dans le ratio aussi des revirements. Ils sont plus 8. L'an passé, ils étaient dans le négatif. Donc, quand tu regardes tout ça, ça c'est présentement, ils sont dominants. Puis Baker, dans la tertiaire, il joue-tu du football, les gars, lui, présentement? Là, c'est terrible. C'est un club qui est aussi spectaculaire à regarder. Offensivement, c'est ça aussi que je me demandais. Est-ce qu'ils vont être capables de pas juste mettre des points, mais être constant, puis ils sont allés chercher cette constance-là, puis Kyler Murray, on le voit, écoute, je vais utiliser un petit jeu de mots, il est en train de grandir devant nos yeux, même si c'est très difficile dans son cas.
Mais faudrait pas qu'il soit blessé longtemps, t'sais, c'est sûr que ça a bien été Colt McCoy en fin de semaine passée, là. On va pas rien y enlever, il a connu tout un match en son absence. Mais faudrait pas non plus que Kyler Murray là, rate 2, puis 3, puis 4 matchs, puis surtout que sa cheville lui laisse un peu des séquelles par rapport à sa mobilité.
Ça, c'est sûr. Mais écoute,
ce serait dommage. Mais honnêtement, là, tout ce que tu dis, c'est totalement ça. Les Cards, c'est dur de les voir aussi gros. Là.
Il disait que Kyler, cette semaine, ça allait beaucoup mieux. Puis il allait être à son poste normalement là, cette semaine.
Une bonne chose.
Non, mais une très bonne chose. Washington. Washington, ah, oui. Pour moi, c'est un désastre. Écoute, l'an passé, ils étaient deuxième défensivement. Ils ont fini l'année deuxième en défensive. Cette année, ils sont au 29e rang. C'est carrément honteux. Dans la tertiaire, il y a eu tellement de bosses et de mauvaises communications. Des gars laissés complètement tout seuls. Une fois de temps en temps, ça peut arriver, c'est la NFL. Il y a des bons compteurs à l'attaque, c'est sûr. Mais c'est pas supposé arriver aussi souvent. Écoute, ils sont passés de 192 verges par la passe à 287 en moyenne par match.
Incroyable.
C'est quand même fou, les gars. Là. En un an, qu'est-ce qui s'est passé dans cette tertiaire-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette défensive-là? C'est très pénible. Évidemment, ils n'ont plus d'équilibre non plus avec l'attaque parce que au niveau du poste de carrière, je pense qu'on est en train de voir Kainecki, ce ne sera pas la solution à long terme. Et évidemment, Fitzpatrick, ben, on ne l'a pas vu de l'année, donc c'est dur de voir qu'est-ce qu'il en est vraiment. Mais c'est vraiment une déception. Moi, je trouve ça horrible présentement, la situation avec Washington.
Bon, ben vous disiez qu'il y en avait plusieurs. Là. Je vais quand même en effleurer deux. Là.
Vas-y,
je vais
jouer.
Fouette-toi un peu.
Fouette-moi un peu.
Je sais où ce que tu t'en vas, par exemple.
Ma première déception, je peux pas croire qu'une équipe qui a fini 10-6 à la porte des séries l'an passé, là, en ce moment, joue avec les trois derniers, les Dolphins de Miami. C'est pas possible. Là. Comment que c'est... On voit à quel point l'an passé, le nombre élevé de revirements a biaisé un peu la qualité de l'appréciation du talent. Là. Je pense qu'ils ont réussi à gagner des matchs parce qu'ils ont eu une séquence invraisemblable de revirements, des interceptions, des fumbles à des moments cruciaux qui leur ont permis de gagner des matchs. Mais la vérité, c'est que je pense qu'ils étaient pas... la fiche de 10-6 l'an passé reflétait pas la qualité de l'équipe. Là, on le voit cette année. Oui, je vais rester dans la même division, là, mais je suis surpris quand même des Pats. Là on n'en parle plus comme des contenders pour faire les séries par la porte arrière. Là. Ils sont à un match de la tête.
Ouais.
Avec un corps recru, avec un
sachant que c'est une équipe qui joue rarement son pire football au mois de novembre et décembre.
En plus. Et... Fait que ça va être difficile pour les équipes qui vont les affronter dans les prochaines semaines. Puis je pense que la surprise va continuer de grandir. On a vite jugé l'équipe de l'an passé avec Cam Newton, mais c'était clairement une année pour se repositionner, refaire le livre de jeu, puis ont trouvé leur bon corps arrière.
Un mot sur les Pats, là. Tu sais, on critique souvent quand qu'une équipe dépense sur le marché des agents libres parce qu'on dit les gros contrats, ça donne pas nécessairement des résultats. Les Pats avec Matt Judon, je pense qu'ils ont visé dans le mille, là, qui effectue vraiment.
Oui, mais bon là, Judon, là, je te l'accorde, là, mais je peux pas croire que les équipes vont pas s'ajuster. Là. C'est comme si ça fait 3-4 semaines qu'ils sous-estiment. Là. À un moment donné, ils vont apprendre à le jouer. Judon, ils vont pas aller de son bord tout le temps, ils vont commencer à le doubler. J'espère, en tout cas.
Je sais pas, regarde, Bill Belichick a toujours la solution pour tirer le meilleur. Regarde, oui. Jamie Collins en est à quoi, là, son 8e retour en Nouvelle-Angleterre. Il est pas bon à nulle part ailleurs. Il joue pas ailleurs, il joue mal, il signe des contrats de fou. Il a fait 95% de sa fortune ailleurs, mais 98% de son talent a été exposé en Nouvelle-Angleterre. C'est quand même fou. Donc, je suis pas surpris que Bill Belichick tire autant de jus de Matt Judon.
OK, les gars, on s'arrête. Après la pause, on va jouer un jeu, OK? On va jouer au jeu. Est-ce que un joueur qui prendrait sa retraite cette année aurait sa place au Temple de la renommée? On va s'ostiner un peu, ça va être le fun. Restez là, on revient.